Chapitre 1er, Sparte et Lycurgue. Les historiens varient beaucoup sur l'époque à laquelle vécut Lycurgue. Thucydide donne la date de 830 avant Jésus-Christ. Mais Hérodote le place 150 ans plus tôt, et un grand nombre d'auteurs sérieux, comme Timée et Xénophon, le font presque contemporain des premiers Héraclides. Dans tous les cas, Lycurgue est bien antérieur au groupe des sept sages, et la législation dont il est l'auteur présente un caractère tout différent de celle de Solon. Il s'est manifestement inspiré de la sagesse égyptienne et des lois de Minos. Lorsqu'après de longs voyages en Orient, il revint dans sa patrie, il se posa comme inspiré d'en haut, fit déclarer par l'oracle de Delphes que Sparte serait la plus heureuse cité de l'univers si elle acceptait et observait les lois de Lycurgue, et défendit expressément de jamais rédiger ces lois par écrit. Il pensa qu'elles auraient plus de force, empreintes dans la mémoire des Spartiates et transmises oralement de génération en génération. Elles se résumaient en quelques maximes, sous forme d'oracles, et se traduisaient en un petit nombre d'institutions fort énergiques qui étaient conservées religieusement. L'œuvre de Lycurgue a été diversement appréciée. Les plus grands philosophes de l'Antiquité l'ont admirée. À la fin du siècle dernier, alors qu'on était en quête de constitution pour la France, l'engouement pour les institutions spartiates atteignit des proportions ridicules. Dans son cahier pour les États généraux de 1789, le tiers-État Bar-le-Duc demandait qu'on établît une école nationale qui, comme à Sparte, formât des hommes et des citoyens. Mably proclamait les lois de Lycurgue divines et désespérait que jamais on pût s'élever à la même perfection. Saint-Just et toute cette école de faux penseurs voulut réaliser en France la vie commune des Spartiates comme l'idéal de l'égalité et de la liberté. De Pau, au contraire, appelait Sparte une caverne de brigands et Volney disait que les Spartiates étaient les Iroquois de l'Ancien Monde. Il y a un juste milieu à garder dans ces exagérations. Lacédémone était une république aristocratique fondée par 30 000 Doriens qui avaient conquis la Laconie et qui maintenaient leur domination sur 120 000 périoques et sur 240 000 ilotes. Les périoques étaient les descendants des possesseurs du sol conquis. Ils jouissaient de tous les droits de famille et même de certaines franchises communales. Ils étaient des hommes libres, pleins propriétaires, spécialement adonnés au métier, à l'agriculture et au commerce, dont la race conquérante s'abstenait autant par politique que par mépris. Les ilotes se trouvaient à un rang bien inférieur. Population essentiellement rurale, ils étaient pour les Spartiates de véritables serfs attachés à la glèbe à titre héréditaire. Cette juxtaposition de périoques et de serfs, soumis à un peuple de guerriers concentrés dans une ville, n'était pas particulière à Sparte. Le même état social existait dans une foule de cités, même non doriennes, par exemple en Crète, en Thessalie, dans l'Achaïe, dans l'Argolide, etc. C'était tout simplement une des conséquences de la conquête, telle que le droit des gens de l'Antiquité l'autorisait. Seulement, à Sparte, la superposition des classes était plus accentuée et plus développée qu'ailleurs. Elle était la base de la constitution politique et de toutes les lois civiles. Pour y maintenir la domination despotique d'une faible minorité de Doriens sur une population plus ou moins asservie 10 fois plus nombreuse, il fallait que les conquérants restassent toujours en armes. Lycurgue organisa le peuple en conséquence. Non seulement l'homme dut s'effacer complètement devant le citoyen, l'individu devant l'État, mais encore le législateur, méconnaissant les droits sacrés de l'humanité, dépouilla la femme de ses plus belles qualités et la paternité de ses plus précieux attributs. Plus de foyer domestique, plus d'intimité de famille, plus de liberté, car nul ne pouvait vivre à sa guise, même dans les choses indifférentes. Tout, jusqu'au repas, était réglé par la loi, et il fallait les prendre en commun. Sparte, ainsi qu'on l'a dit spirituellement, n'était qu'une grande caserne. Tout concourait à ne faire de ses habitants que des soldats. Ils n'avaient d'autre occupation, d'autre préoccupation que les armes. Aussi, à l'époque classique, les mœurs domestiques de Lacédémone faisaient-elles le plus frappant contraste avec celles des autres cités de la Grèce. Tandis qu'à Athènes, notamment, la jeune fille et l'épouse étaient renfermées dans le gynécée, À Sparte, les jeunes filles jouissaient d'une liberté qu'on a souvent et à bon droit qualifiée d'excessive. Une fois mariées, elles étaient astreintes à un costume plus sévère, mais elles n'en conservaient pas moins une influence qui s'exerçait bien au-delà du cercle étroit de la famille. On a parfois prétendu que Lycurgue avait institué pour les femmes une discipline particulière. Aristote démontre déjà la fausseté de cette opinion. Les femmes avaient à bien des égards à Sparte une situation analogue à celle que nous leur voyons dans les poèmes homériques, et grâce aux vertus antiques, elles conservèrent leur liberté jusqu'à une époque où le courant général des mœurs devait la faire dégénérer en licence. Les cérémonies du mariage comportaient, comme dans les autres villes grecques, le consentement préalable du père. Puis la femme était conduite dans la maison du mari, ou plutôt le mari, accompagné de quelques-uns de ses amis, simulait un enlèvement. La femme entrait dans les sacrifices et la famille de son époux. Mais après son veuvage, elle retournait dans sa propre famille jusqu'à ce qu'elle convolât en seconde noce, ce que l'opinion publique était loin de blâmer, là comme ailleurs. L'ancienne législation voulait que les femmes se mariassent sans dot, ou du moins avec une dot très minime. Le but de cette disposition était de conserver le patrimoine des familles entre les mains des mâles. On la retrouve déjà dans les récits homériques. À la prohibition de la dot se rattachaient des règlements somptuaires assez sévères, dont des magistrats spéciaux devaient contrôler l'observation. Mais par la suite des temps, ces règlements tombèrent en désuétude. Les femmes spartiates abandonnaient tous les soins domestiques aux esclaves. Filer la laine était, à leurs yeux, une occupation servile. Avec de pareils principes, il était impossible que de grandes habitudes de luxe ne s'introduisissent pas chez elles, quand les richesses affluèrent dans la ville après sa brillante hégémonie. M. Grotte explique avec beaucoup de sagacité par ce fait le reproche de cupidité que tous les anciens adressent aux spartiates alors qu'une discipline si rigoureuse était imposée aux hommes. Cette cupidité, selon lui, était sans cesse excitée par la nécessité de pourvoir au luxe de leurs femmes. Quoi qu'il en soit, et que la richesse des femmes provint des déprédations de leurs maris ou du travail de leurs nombreux esclaves, il est certain qu'à une certaine époque, elle devint fort considérable et leur donna une influence prépondérante dans les affaires de l'État. Au IVe siècle, les 2/5 du territoire lacédémonien appartenaient aux femmes. Quelle était, au même moment, leur capacité civile? Il est assez malaisé de la déterminer. Tout document précis nous fait défaut. Mais il est évident qu'elle devait être fort étendue. En l'absence d'une législation écrite, l'action incessante des mœurs avait dû transformer complètement les anciennes coutumes. À Sparte, comme dans tout le monde helléno-pélagique, on attachait une importance extrême à la conservation des maisons, à la propagation de la famille. Rien n'était plus terrible pour les Grecs, comme au surplus pour les Hindous et les autres peuples de la même souche, que la destruction de la famille, la solitude de la maison par laquelle le mort perdait ses honneurs religieux, les dieux de la famille leur sacrifice, le foyer sa flamme, les ancêtres leur nom parmi les vivants. Cette préoccupation se manifestait par une série d'institutions et d'usages, dont quelques-uns heurtent singulièrement notre morale moderne, mais qu'il faut juger en tenant compte de la croyance religieuse qui leur servait de base. Ainsi, quand un mariage restait stérile, non seulement les époux pouvaient suppléer par l'adoption à l'absence d'enfants, mais encore ils étaient, suivant les circonstances, tenus de se séparer, le mari et la femme cherchant, chacun de son côté, dans une nouvelle union, le moyen d'avoir une postérité et d'assurer ainsi, après eux, le culte des ancêtres et des dieux du foyer domestique. Quand partant de là, on ait pu arriver par une pente rapide à enlever au mariage sa sainteté et à tolérer en fait une sorte de promiscuité des sexes ou de communauté des femmes, nous ne chercherons pas à le contester. Et les auteurs anciens et modernes se sont élevés avec raison contre le dévergondage des lacédémoniens. Mais n'oublions pas qu'au fond de ces pratiques odieuses, de ce communisme révoltant, il y avait une croyance religieuse profondément enracinée chez tous les peuples ariens, à savoir qu'il fallait empêcher par n'importe quel moyen, Perfas et Nefas, l'extinction des familles et par conséquent la suppression du culte des ancêtres. À Sparte en particulier, ce sentiment religieux se doublait évidemment de la nécessité d'assurer, chez un petit peuple militaire, le recrutement permanent de l'armée. Le célibat y était ridiculisé et flétri, alors même que par le mariage des frères, le culte des ancêtres était assuré. D'un autre côté, et c'est l'une des singularités de ce régime abusivement autoritaire, les familles trop nombreuses étaient vues de mauvais œil, parce qu'on redoutait le morcellement excessif des propriétés. L'usage sanctionnait diverses pratiques abominables destinées à prévenir une augmentation trop rapide du nombre des enfants. Conformément à une loi d'éternelle justice, ces pratiques ont eu pour conséquence, au bout de quelques siècles, l'anéantissement presque complet de la race spartiate proprement dite. En matière de succession, la transmission des biens était fondée sur la loi et la parenté, nullement sur la libre volonté du propriétaire. Les fils et leurs descendants mâles excluaient complètement les filles. On a beaucoup discuté la question de savoir s'il existait à Sparte un droit d'aînesse. Pour l'affirmative, on n'a guère invoqué qu'un seul argument, c'est que le droit d'aînesse est nécessaire au maintien de l'égalité des possessions foncières. Or, aujourd'hui, rien n'est moins prouvé pour Sparte que cette prétendue règle de l'égalité et par conséquent de l'indivisibilité des patrimoines immobiliers. Les auteurs admettent assez généralement que le partage égal des terres attribué par Plutarque à Lycurgue n'est qu'une erreur du grand biographe, et que ce partage n'a jamais eu lieu. Il est au contraire très probable, et nous en avons fourni tout à l'heure la preuve indirecte, qu'à Sparte, comme dans les autres cités grecques, les héritages se partageaient également entre les enfants mâles. On y trouve seulement une institution spéciale qui s'est maintenue aussi dans le droit fribourgeois, sans que nous ayons la prétention d'établir un lien de filiation quelconque entre la législation lacédémonienne et celle de nos voisins de l'Ourthland. C'est l'indivision ou la communauté entre frères. Au lieu de procéder au partage de la succession paternelle, tous les enfants restaient groupés autour du même foyer, et l'un des frères, le plus capable et ordinairement l'aîné, à cause du privilège religieux de sa naissance, gérait les biens communs avec le titre expressif de conservateur du foyer. Le droit hellénique n'admettait pas que les filles fussent aptes à hériter et à continuer la maison par elles-mêmes, mais leur sort, et à défaut d'héritier mâle direct, la conservation de la famille était assurée par une disposition législative qui obligeait leurs plus proches parents paternels, jusqu'au degré de cousins issus de germains, à les épouser et à les doter. Cette obligation était tellement stricte que si le plus proche parent était déjà marié, il était tenu de répudier sa femme et d'épouser sa parente à peine de perdre l'héritage. Réciproquement, il avait le droit d'épouser la fille héritière, même malgré elle, et de la revendiquer en justice avec la succession. Si elle était déjà mariée, son premier époux était contraint de renoncer à elle. Le fils, né de cette union forcée, était mis à l'âge d'homme en possession des biens de son grand-père maternel, auquel il était censé succéder directement, et il devenait en même temps le tuteur de sa propre mère. Quand plusieurs enfants naissaient du mariage, l'un prenait l'héritage et le nom de son grand-père paternel, l'autre l'héritage et le nom de son grand-père maternel, de manière que chaque famille continua autant que possible à avoir une existence distincte. Aristote constate que l'exercice du droit des parents collatéraux sur les filles héritières fut une cause de révolution dans beaucoup de cités helléniques, et le poète de Mégare, Théognis, indique dans ses élégies que souvent les parents se refusaient à accomplir leurs devoirs envers les filles pauvres. Le mariage des filles héritières était du petit nombre des causes réservées à Sparte à la juridiction royale. Non que les rois eussent, comme on l'a prétendu, la mission de leur choisir un époux, mais ils étaient juges de la revendication que le plus proche parent devait exercer, et il tranchait les questions de fait ou de droit qui s'élevaient à propos des rapports de parenté. Selon Hérodote, les rois prononçaient quand le père n'avait pas marié ou fiancé sa fille. Faut-il conclure de là que le père, qui n'avait que des filles, eut toute liberté pour désigner leur mari? Nous ne le pensons pas. Si la fille avait épousé l'un de ses parents, son mariage était inattaquable. Mais, hormis ce cas, le père pouvait choisir parmi ses proches celui qu'il jugeait devoir le mieux convenir à sa fille. D'un autre côté, il arrivait que, quand le père mourait sans avoir marié sa fille, le parent le plus rapproché n'épousa pas lui-même l'héritière et la donna à un parent plus éloigné. La rigueur du droit devait être tempérée par des arrangements de famille. Au reste, les mariages entre proches parents étaient fort usités à Sparte, même quand il ne s'agissait pas de fille héritière. Les mœurs grecques les autorisaient même entre demi-frères et demi-sœurs. La conservation du patrimoine dans la famille n'en souffrait pas, car de deux choses l'une, ou bien la fille qui épousait son frère utérin avait des frères consanguins, et alors elle ne prenait aucune part à l'héritage paternel, elle ne recevait même à Sparte aucune dot, ou bien elle n'avait point de frères consanguins, et alors, étant fille héritière, elle ne pouvait épouser son frère utérin qu'autant que ses proches parents paternels ne faisaient pas valoir leur droit à l'épouser. On le voit, la situation des femmes lacédémoniennes n'avait rien d'enviable. Si elles n'étaient pas reléguées comme ailleurs au fond d'un harem ou d'un gynécée, elles vivaient dans une société où les saines notions du mariage et de la famille étaient singulièrement oblitérées. Leur dignité et leur indépendance vraie étaient également méconnues. En associant les femmes aux travaux extérieurs et à des occupations semi-guerrières, en relâchant les liens de l'union conjugale, Lycurgue avait dépouillé du même coup les femmes des qualités et des vertus de leur sexe.